On trouve Vincent Ferniaud pour Place du Marché, émission enregistrée jeudi au Salon de l'Agriculture.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Bonjour à tous et bienvenue Place du Marché. Nous sommes au Salon de l'Agriculture, sur le stand de l'Occitanie, qu'on remercie de nous accueillir. C'est le dernier jour au Salon et nous allons en profiter pour faire le point de cette année en compagnie de celui qui est devenu en quelques mois 1h50 de film et plusieurs millions de spectateurs, une des nouvelles figures de l'agriculture, du monde agricole. Je veux parler d'Edouard Bergeon, le réalisateur d'Au nom de la terre. Bonjour Edouard.
Bonjour Vincent.
Merci d'être Place du Marché avec nous.
Merci à vous.
Alors, cumulez quand même, vous, parce que vous êtes à la fois agriculteur, journaliste, réalisateur, cinéaste.
Oui.
Vous arrivez à faire tout dans votre vie ?
Il y a un petit peu restaurateur aussi.
Ah oui, c'est vrai, un petit peu restaurateur.
Je serais d'union avec la terre à Paris. Il fallait bien amener un carré de jardin dans le béton parisien.
Pourquoi vous manquiez d'activité ?
Ouais, c'est ça. Dans un chagrin d'amour, je ne vous rentrerai pas dans les détails.
D'accord, d'accord.
Un maraîchage, des fruits, des légumes, que de la fraîcheur, des circuits courts. Et beaucoup de plaisir dans un lieu qu'on a créé à Paris avec des amis. Voilà, c'est le trait d'union avec mes racines rurales, en fait.
Ouais, vous avez des traits d'union dans tous les sens, vous, de toute façon, avec la terre. Alors, on va immédiatement revenir sur vos sentiments après cette semaine d'immersion dans le salon, parce que vous y avez été carrément. Et après, nous aborderons le thème de cette émission, une plongée dans le monde de la viande, au travers du regard des éleveurs qui nous rejoindront, comme Émilie, qui est à côté de nous. Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Alors, Émilie Bergeon, j'allais dire Bergeon, pas du tout, Émilie Janin.
C'est pas encore, à la fin de l'émission
non,
peut-être. Mais...
peut-être, hein, si, parce qu'on est, on est marieurs nous aussi, hein, et pas que de bovins. Et Émilie Janin, vous êtes éleveuse,
oui. Hein,
vous êtes éleveuse de charolaises.
C'est ça.
Donc, forcément, en Bourgogne.
Voilà.
Hein, en Côte d'Or.
En Côte d'Or, dans l'Auxois. Alors,
c'est ça, dans l'Auxois, à Beurizeau.
C'est ça. Hein.
Un petit village qui est, on peut dire, à mi-chemin entre le Morvan et Dijon, quoi.
Oui, c'est exactement ça. On est 120 habitants.
120 habitants, bah c'est, et quelques vaches.
Voilà.
Et quelques vaches. Je vous ai demandé de venir, et d'ailleurs, vous intervenez quand vous voulez. Hein, parce que, d'abord, j'aime avoir des agricultrices, hein, des éleveuses, dans un monde qui est quand même le monde de la viande, un peu un monde d'hommes, il faut bien le reconnaître. Et surtout, vous avez une vision, je dirais, actuelle, moderne, de votre façon de faire de l'élevage jusqu'à l'abattage, et on va en parler puisque vous êtes la promotrice d'une nouvelle forme d'abattage, et c'est très important dans cette époque où je dirais que tout le monde est stigmatisé, hein, dans le monde de l'élevage et de l'abattage. Vous êtes d'accord ?
Oui, c'est très très dur. Oui.
Ah, c'est très très dur, oui.
C'est compliqué pour le grand public de se dire que les éleveurs et les éleveuses aiment leurs animaux et se disent qu'il y a la mort, en fait. Il faut abattre,
oui.
Et puis
et oui.
Avant que ça arrive dans notre assiette. Mais en France, on a un vrai problème avec la mort.
Alors, plus, tout à l'heure, pas qu'en France, mais c'est vrai qu'en Occident.
En tout cas, voilà, on adore là être dans le hall 1 au milieu des... Là, on a les moutons à côté de nous, les vaches juste derrière nous. Et, mais après, on adore prendre l'escalier roulant qui monte au hall 3 pour voir les produits, les salaisons,
les
entrecôtes. Mais je sais pas, c'est ce hub là, cet escalator où tout doit se passer la nuit, en fait. Mais en tout cas, on ne parle pas d'abattage où les seules images qu'on voit depuis quelques années sont celles de collectifs un peu... hardcore,
oui, bah oui, c'est un peu le côté extrême, mais ça
l'avantage ça ouvre le débat,
d'ouvrir
ça ouvre le débat.
Et les consciences,
oui,
parfois.
Les consciences.
Bon, Edouard Bergeon, il est vrai que dans votre film Au nom de la terre, on le voit, dans votre famille, on faisait de la polyculture et du polyélevage, hein, notamment des chèvres et des poulets.
Alors, des chevreaux, pour l'engraissement, pour la viande, justement.
Oui, oui.
Moi, je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. Mon grand-père faisait du bovin, de la partenaise. On est dans le... Il allait au marché appartenait, on n'était pas loin, c'est-à-dire c'est à côté des Deux-Sèvres, on était dans la Vienne. Mais moi, j'ai connu quand j'étais petit que des moutons, l'agneau du Poitou.
Ah oui.
Et mon père faisait du mouton, mais en 89, les Néo-Zélandais nous cassent les marchés avec leurs moutons, donc on est obligé de se diversifier. Vous voyez, c'est ça l'agriculture, hein, c'est se diversifier quand
bien
le marché
sûr,
mondial
bien sûr,
s'ouvre.
Bien sûr.
Et la coopérative qui nous fournit les chevreaux, les agneaux, nous propose cette nouvelle production qui est le chevreau de lait, en fait, parce que dans les élevages de chèvres, quand on fait du lait de chèvre pour faire du fromage, on s'embête pas, on n'a pas le temps d'élever les petits chevreaux.
Oui, on ne sait pas quoi en faire, un peu comme les poussins
comme
dans l'élevage des poulets.
Et en fait, nous, on était un centre d'engraissement, en fait, avec des chevreaux qui nous venaient d'Indre-et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Vienne, des pays de chèvres.
Des pays lointains, du Berry, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'était une production qui avait deux gros pics pour Noël et puis pour Pâques. Et cette production partait en grande partie en Italie. pour les fêtes pascales, pour les fêtes de Noël. Mais c'est des viandes qui se mangent de moins en moins chez nous, parce que dans l'inconscient collectif, et on le voit dans le film, c'est très mignon, c'est tout mignon, un petit chevreau. Oh,
vous... Ah, il est bien.
Hein, c'est... Il a bien gardé le
truc.
Voir du...
Il voilà. Fait pas que des bons films, il fait aussi bien...
Bah, j'ai grandi au milieu des chevreaux et des agneaux et des volailles, puisque on s'est diversifié. Voilà, le système de l'intégration que je raconte dans mon film, ouais. Il faut trouver des solutions quand justement les cours de marché baissent, parce que nous, on exportait beaucoup en Italie, les chevreaux. On se lance avec une coopérative dans du canard prêt à gaver. On doit en faire 1000 par semaine, au bout de 10 semaines, elle arrête tout. On ne sait pas pourquoi, on se retrouve avec des lourds investissements. Eh bien, on essaie le poulet industriel. Quand tout allait bien, on gagnait 1 franc par poulet. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la facture dans l'intégration. On vous apporte l'aliment, les animaux, et à la fin, on vous reprend tout. Mmh. Et pour garder notre fierté et faire de belles viandes, de beaux poulets, mon père s'est lancé, ce qui nous rapportait un petit peu plus d'argent, dans le poulet fermier. Mmh. 6 semaines pour un poulet industriel, 18 semaines pour un poulet fermier qui courait, et pour lesquels on pouvait valoriser notre blé, le blé de la ferme. Parce que dans la polyculture élevage, dans les systèmes d'intégration et de filière, on ne peut pas valoriser ce qu'on cultive. Ça peut paraître fou, hein, mais c'est ce que raconte Au nom de la terre.
C'est ce que raconte Au nom de la terre jusqu'à une fin qui est évidemment dramatique, puisque votre père perd tout, hein, face aux lois du marché et à ce monde agroalimentaire impitoyable. En définitive, on va dire difficulté avec les banques, parce que là aussi c'est un problème qui est récurrent dans le monde agricole, de pouvoir trouver les financements.
Oui, parce qu'il n'y a pas de rémunération du travail, c'est ce que je raconte, le mal-être, et puis pour certains l'acte ultime, le suicide, c'est multifactoriel en fait. L'agriculteur, il ne faut pas oublier qu'il travaille entre le ciel et la terre, il est vulnérable, c'est la météo qui commande son travail dans les champs, mais aussi avec l'élevage. Les maladies sur un élevage, elles arrivent quand il y a une gelée blanche, des problèmes respiratoires sur les animaux. Il y a un contexte familial. Généralement, on reprend l'exploitation d'un grand-père qui a gagné de l'argent et qui ne comprend pas forcément qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les Trente Glorieuses.
Interprété par Rufus, qui est parfait dans ce rôle.
Ouais, merci. Il peut y avoir des accidents, comme un incendie, comme une grêle, une tempête, voilà, tout ça. Puis aujourd'hui, il y a un grand public qui juge les paysans, les agriculteurs.
Qui méjuge.
Qui méjuge tout ce monde qui les nourrit. Je trouve injustement en fait. Donc voilà. Toutes ces conditions multifactorielles, c'est comme un crash aérien. C'est pas un réacteur qui s'arrête. C'est juste une conjonction
de plusieurs facteurs
qui arrivent au drame.
Alors Édouard Bergeon, beaucoup de ceux qui nous écoutent ont vu votre film, donc savent de quoi il retourne.
En Occitanie, il y a eu une très belle affluence, mais dans toutes les régions d'élevage.
Bien sûr, parce qu'on s'identifie. Et on met en avant vous mettez en avant dans ce film évidemment une certaine désespérance du monde agricole. Qu'est-ce que vous avez senti cette semaine? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous avez senti un ferment? Les gens qui viennent vous voir, ils vous disent quoi?
Sans paraître, c'est juste factuel ce que je vais vous dire, beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices m'arrêtent et viennent me voir pour me dire merci d'avoir parlé de notre métier avec justesse. Mais ce film Au nom de la terre reste comme un marqueur dans le monde agricole. Il y a un peu un avant, un après. Pour ceux qui sont plus en difficulté, ce film leur montre que c'est pas de leur faute en fait. C'est pas qu'ils travaillent mal, c'est pas qu'ils sont plus faibles que les autres, c'est qu'il y a un marché et un contexte qui fait que c'est compliqué. Et il y a un tiers en Saône-et-Loire, d'ailleurs il y a pas loin de chez vous, il y a une étude qui a été faite, un tiers des agriculteurs sont près du burn-out, plus de la moitié travaillent plus de 50 heures par semaine.
Donc oui, c'est pas grave. Sans gagner correctement leur vie.
Travailler, c'est pas le problème.
C'est affreux. Ouais.
Il y a une inadéquation entre le travail fourni et le revenu. Quoi.
Ouais. Moi, c'est vrai que je dois avouer à Edouard que j'ai ne pu voir que la bande-annonce. J'étais en pleurs et tellement désespérée que je ne pouvais pas aller le voir. Parce qu'en fait, je côtoie trop de collègues paysans qui souffrent et qui vivent cette situation tellement forte. Je sais juste qu'effectivement, ça a permis de décomplexer la parole sur ce sujet-là dans le milieu agricole. C'est super parce qu'on peut en parler du suicide, et à un moment donné quand on parlait du suicide c'était de l'agribashing quoi, alors qu'en fait c'est la réalité de beaucoup gens. Et en fait il faut trouver des solutions concrètes économiques pour que ça aille mieux pour tout le monde.
Agribashing, c'est le dénigrement des agriculteurs, hein. Pour ceux qui parlent pas français, anglais je veux dire, agribashing c'est devenu une formule pour dire en fait ce dénigrement perpétuel. À quoi ça tient au départ?
Cette formule, elle me rend mal à l'aise. Je l'aime pas du tout. Elle est nourrie en plus par une machine médiatique et par un syndicat majoritaire qui l'entretient. Moi, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Je le prononcerai même pas. Si, je vais vous parler d'agri-loving, si vous voulez.
Ah bah oui. Voilà. Oui, on est là pour ça d'ailleurs. Et même d'éleveur-loving, hein, de aimer ses éleveurs. On va voir si c'est possible ce matin ici, place du marché. Allez, on se retrouve dans une minute.
Place du marché, émission enregistrée jeudi au Salon de l'agriculture.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente.
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes amis, de retour au Salon de l'agriculture où nous sommes pour ce dernier jour en compagnie d'éleveurs. D'éleveurs, puisqu'on va parler d'élevage, de bonnes pratiques d'élevage, de bonnes pratiques d'abattage, pour voir si on peut encore, si on a encore le droit de manger de la viande. De manger
bien sûr
de la
qu'on a le droit.
Ah, ça c'est Édouard Bergeon qui était avec nous au premier gradeur. Alors, Édouard Bergeon, le réalisateur d'Au nom de la terre, vous êtes pour la belle viande. Vous n'êtes pas végé, vous, je suppose.
Ah bah, jamais de la vie. J'ai grandi dans une exploitation agricole. Mon travail pour gagner de l'argent de poche, c'était de tuer les poulets, les vider, de gaver les canards par mes propres soins et d'en avoir... dans le congèle, c'est ça.
Oui. Alors, Édouard, vous disiez un truc très intéressant tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous. Vous disiez, le problème de nos sociétés largement urbanisées face à la mort, en général. Il est vrai que dans les sociétés agraires, la mort faisait partie de la vie. Tant du côté humain, puisque souvent les gens mouraient chez eux et on les accompagnait, que du côté de l'abattage des animaux qu'on faisait soi-même avant de
On les chassait même.
Oui, on les
chassait. Avant l'agriculture.
Effectivement.
Oui, mais l'homme est l'homme et l'hominisation parce qu'on chassait, de cueilleurs, chasseurs, on s'est sédentarisés. Les agriculteurs ont cultivé, ont élevé des animaux et les ont abattus pour grandir. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on est autour de cette table et qu'on a, je pense, une réflexion, je ne sais pas si elle est plus ou moins construite, mais c'est qu'on a mangé quelques protéines et ces protéines venaient de la viande à un certain moment.
Oui, parce qu'on est omnivore. D'ailleurs, c'est un thème cher à Émilie Janin. Alors, Émilie, que je vous ai présentée tout à l'heure, elle est éleveuse de charolaise en Côte d'Or, donc berceau du charolais, hein, la Bourgogne quand même. Émilie, alors vous dites, parce que j'écoute ce que vous dites, hein, je vous ai vu et entendu dans plusieurs interviews. Vous dites que de ce point de vue-là, ça ne vous pose aucun problème. Vous avez intégré le fait que vous abattez vos bêtes. Et pourtant, on sent une grande peine chez vous au moment de l'abattage. Il faut le rappeler, hein, beaucoup d'éleveurs comme vous, au moment où les bêtes partent à l'abattoir...
C'est violent.
C'est violent.
Oui, alors beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que... Vous me dites que ça ne me pose pas de problème. En fait, si, ça m'en pose beaucoup. Et j'étais à l'abattoir à 4h du matin, mardi dernier, pour emmener une bête, justement. C'est violent parce qu'à un moment donné, même si on la charge avec attention, en faisant attention à ne pas la stresser, à l'emmener particulièrement dans le calme, etc., quand on la décharge à l'abattoir, à un moment donné, c'est plus nous qui maîtrisons ce qui se passe. La
Mais
porte
oui,
se
ça.
Ferme et après, on maîtrise
on
pas.
On délègue à d'autres, en fait, cet acte.
Voilà. Donc moi, j'ai mal au ventre, en général, jusqu'à ce que je récupère ma viande, plusieurs semaines après, des fois, et que du coup, à travers la viande, déjà, je vois qu'il n'y a pas de signe de stress parce qu'elle a une bonne texture, elle a
oui,
pas Emily, de couleur.
Excusez-moi, mais je vous ai vu dans un très joli documentaire. On voit que vous connaissez toutes les vaches par leur nom.
Oui, hein,
donc
c'est
vous,
dur.
Vous installez une relation quasi personnelle avec chacune de vos bêtes. Mm. C'est très difficile ce que vous me dites, de voir revenir en fait les quartiers quand on a côtoyé.
Mais en même temps, si on veut continuer
ça fait partie
à élever
de la vie d'éleveur, ça.
Voilà, si on veut continuer à avoir des animaux sur nos fermes et avoir des paysages... voilà, il n'y a que des herbivores qui savent valoriser des ressources fourragères, de l'herbe, etc. Nous, on ne sait pas. Et si on veut continuer à en avoir, eh ben, effectivement, on va dire que 30 jours par an, sur les 350, eh ben, il faut que je m'occupe de tuer des animaux et de vendre leur viande pour vivre le reste de l'année et d'en faire naître et de m'en occuper et de les soigner, etc. Ça fait partie du cycle de la vie de l'élevage et du cycle de la vie tout court, quoi.
Oui, parce que la vache est une usine naturelle à transformer l'herbe que nous, on ne peut pas digérer en aliments, que ce soit laitier ou en viande, digeste pour l'homme.
Voilà, oui.
Globalement, hein.
C'est ça, globalement, oui, oui. Et nous, on est sur des terrains... Enfin, souvent, l'élevage, se fait, en fait, sur des terrains où on ne peut pas facilement mécaniser. Donc, en fait, l'herbe, c'est une ressource naturelle. Enfin, les végétaux captent l'énergie du soleil, le transforment en matière qui est valorisée par des gens qui savent le valoriser.
Donc, c'est un cycle.
Les animaux sont les meilleurs alliés d'une agriculture biologique ou de conservation. pour fumer les sols, pour les aérer.
Pour les garder vivants.
Je veux bien être vegan, hein, mais s'il n'y a plus d'animaux pour fertiliser les sols bio, je ne sais pas avec quoi.
Oui, on a besoin de protéines animales, il faut le rappeler, en tout cas de certaines, donc qui fait que c'est difficile d'être réellement vegan toute sa vie, surtout au moment de la croissance. Émilie, vous dites, là aussi, que les... évidemment, les agriculteurs nous nourrissent. C'est d'ailleurs tout l'objet de notre présence ici, hein, au sein de l'agriculture. Ils nous nourrissent chaque jour, toute notre vie. Et pourtant, ce sont eux qui crèvent de faim dans le monde. Il y a un paradoxe incroyable.
C'est les premiers à souffrir de la faim dans le monde. Alors, parce que c'est vrai qu'ici, on parle de l'agriculture française qu'on connaît entre guillemets la mieux. Mais à l'échelle mondiale, enfin, souvent, on a dit qu'il faut faire une agriculture ultra-intensive pour arriver à nourrir des milliards de populations. Sauf qu'en fait, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la FAO a fait des différents rapports. On a une agriculture la plus productive qui soit, là, à l'heure actuelle, mais on est aussi la période du monde où on gaspille le plus d'alimentation.
40%.
Voilà, et où il y a le plus de gens qui meurent de faim, c'est au départ des paysans, parce qu'en fait, les marchés sont déstructurés.
Quand vous dites on gâche, ça veut dire qu'on jette pratiquement la moitié de ce qui est produit.
Par exemple, les fruits et légumes moches, les gueules cassées, par exemple, chez Nicolas Chabas.
Oui, Edouard Bergeon, on connaît bien ça.
Qui a monté des marques pour Reus. Pour vendre 30% moins cher des fruits et légumes qui sont très bons. C'est juste qu'ils sont un peu
ils ont un peu une sale gueule.
Dans au scan laser dans l'usine, ils ont été mis de côté. Vous savez quel est ce qu'on jette en France, ce que ça représente ce qu'on jette en France chaque année? Eh ben c'est l'équivalent du Stade de France rempli de fruits et légumes jusqu'au toit. Vous voyez le Stade de France?
Non mais c'est
rempli de fruits et légumes.
Oui, je vois très bien.
Ouais,
oui.
Ben c'est ce qu'on
c'est
jette.
Énorme.
En France, chaque année.
C'est-à-dire que ça ne sert même pas à la consommation animale.
Non.
Hein, on ne recycle pas. Et de la même façon...
C'est le diktat de l'agro-industrie, ça. Hein. C'est pas les agriculteurs qui veulent pas les vendre. Hein.
Non, j'entends bien. Et puis peut-être aussi les règles d'hygiène et de sécurité qui sont hyper protectrices.
Oui, mais là, en tout cas, les produits sont bons. Ils ont juste une gueule...
Ils sont juste moins beaux.
Oui,
ils sont beaux à l'intérieur. Hein.
Voilà.
Mais ça veut dire que les circuits sont peut-être pas adaptés, effectivement, à ce genre de produits. En tout cas, en termes de circuit, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, Émilie, vous êtes à l'origine d'une initiative formidable qui est de lancer des abattoirs mobiles. Mmh. On parle souvent des conditions d'abattage et on oublie souvent le transport, qui est évidemment générateur de stress pour les animaux. Et puis, évidemment, le fait que vous luttiez un peu contre l'abattage industriel, on peut dire en tout cas la grande surface de l'abattage. Pourquoi ?
Bah pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, même si moi je travaille avec un abattoir de proximité, j'ai raconté tout à l'heure, c'est violent quand même cette étape d'emmener son animal dans un abattoir ailleurs et on ne sait pas ce qui s'y maîtrise. Et puis j'ai découvert l'abattage mobile en Suède et là, même si je suis malade physiquement en France, là en Suède c'était magique, enfin parce que je me suis rendu compte que le fait que l'abattoir s'installe sur la ferme, ça change tout le rapport de relation qu'il y a entre les abatteurs, les inspecteurs vétérinaires et l'éleveur. Il y a toute une transparence qui est là. Effectivement, il faut changer de méthode, mais le fait de ramener l'abattage à la ferme, dans des bonnes conditions de normes, avec tous les équipements spécifiques pour respecter toutes les garanties sanitaires qu'on doit aux consommateurs, c'est possible aujourd'hui avec les technologies, on peut le faire. Et du coup, quand on fait cela, ben, on enlève énormément de stress, énormément d'inconnus qui viennent se greffer dans l'industrialisation de notre alimentation entre le producteur et le consommateur.
Vous faites comment ? Vous venez avec un camion à la ferme ?
Oui, c'est plusieurs camions. Enfin, c'est gros parce que du coup, nous, on travaille sur un abattoir pour bovins, donc c'est assez gros, c'est un semi-remorque. Et puis, il y a des camions frigo.
Des caissons, en fait.
Voilà,
oui, parce qu'il faut pouvoir réfrigérer tout de suite, j'imagine.
Voilà, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle le ressuyage. Donc, on a des camions frigo qui permettent de faire tomber les carcasses de 37 degrés à moins de 7 degrés en 30 heures. Donc ça, c'est le ressuyage. Et après, elles seront déposées dans des entrepôts frigo pour faire la maturation proprement parlée. Et puis, il y a le camion où il y a la partie abattoir proprement parlée. Et puis, tous les annexes pour avoir les espaces de vestiaire, etc., pour les salariés et compagnie. Ouais.
Alors vous, on comprend le bienfait pour l'éleveur qui aime ses bêtes, qui va pouvoir les accompagner. On comprend qu'il y ait moins de stress, peut-être parce que, je sais pas, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de stress autour de ces abattoirs mobiles.
La différence, c'est qu'on prend en compte, du coup... l'instinct grégaire, enfin toutes les perceptions des animaux, c'est-à-dire que ben, les vaches, elles se repèrent beaucoup à l'odeur, par exemple. Donc quand on dit qu'elles arrivent dans un abattoir et qu'elles sentent la mort, c'est pas tant la mort, c'est surtout qu'elles arrivent dans un environnement olfactif qu'elles ne connaissent pas et du coup qui vient générer un stress. En plus, on les a mélangés avec d'autres troupeaux. Donc du coup, comme ce sont des animaux sociaux, eh ben, ils se bagarrent entre eux pour remettre des histoires de
des
hiérarchie, de fonctionnement dans leur groupe. Donc du coup, ça les stresse. D'accord. Ils se battent, ils peuvent se blesser. Voilà, nous, quand on traverse la France de Bourgogne, typiquement, si je vais en Bretagne, en voiture climatisée, c'est fatigant. Eux, ils sont debout dans des camions entassés, voilà.
On voit parfois des...
C'est compliqué
des,
quand même.
Je pense à des camions de porc, notamment en hiver, des camions ouverts où on voit que les bêtes ont froid, qu'elles sont transportées sur les autoroutes à grande vitesse. Enfin, c'est ahurissant.
C'est ahurissant. Alors, c'est effectivement cette concentration des abattoirs où on les a éloignés des lieux d'élevage, mais aussi des villes où on ne voit pas ce qui s'y passe. Ben, du coup, c'était des lieux fermés où on n'a pas vu ce qui s'y passait jusqu'à ce qu'on ait ces vidéos trash, quoi. Et là, quand on ramène les abattoirs... dans les fermes, plus près des éleveurs. Déjà, les éleveurs sont les premiers à ne pas vouloir que leurs animaux soient maltraités. Parce que oui, on va leur donner la mort, mais on doit la donner dans de bonnes conditions, quoi. Pas n'importe comment.
Puis on parle des animaux, faut imaginer aussi ce qu'est la vie des personnels des abattoirs.
Bien sûr.
Les a cachés, on les a justement concentrés, centralisés.
Et ils ont un peu la honte du bourreau, quoi. Hein.
Non, mais enfin, même, imaginez-vous abattre des bêtes
toute la journée.
Oui. Toute la journée, c'est pas humain, en fait. Justement,
c'est
comme
aliénant.
On a un problème, c'est aliénant, on devient fou. Donc, à un moment donné, on les respecte plus. Les animaux, elles sont déjà mortes alors qu'elles sont
bien
vivantes.
Sûr.
Et je leur jette pas la pierre. C'est des boulots généralement pas très bien payés.
Ce sont un peu des bourreaux professionnels, quoi.
Ouais,
malheureusement,
c'est
on en
très
fait
difficile.
Ça.
Et là, j'imagine qu'il y a aussi on revoit l'abattage du point de vue de l'humain, en fait, de l'homme.
Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme quand on parle tout le temps du bien-être animal. On ne peut pas envisager du bien-être animal avec de la maltraitance des gens qui sont autour et qui y travaillent. Quoi. Que ce soit les éleveurs
ou les abatteurs. Il faut que tout le monde soit bien traité, les animaux comme les humains qui pratiquent.
Et puis, il y a des choses, quand on demande physiquement d'abattre 80 bovins à l'heure, et ben, forcément, ce n'est pas la même chose que si on en abat 6 par heure. Quoi. Mmh. Tout simplement, c'est le rythme qu'on impose. Soit on est respectueux et on fait attention à bien faire le travail, soit
mais
on...
Alors, excusez-moi, mais ça me pose une vraie question. On a une minute juste avant la pause. Un problème de coût. Vous me dites 80, ça doit être le prix qu'on paye la viande. Eh bien, il est fonction aussi de l'abattage, hein, et des conditions d'abattage et de stockage. Si vous parlez de 6 à la place de 80, ça va faire grimper le prix de la viande.
Bon, alors ça, c'est tout le problème de la filière viande bovine. Alors, je siège à Interbev, hein, ils ont leur stand juste à côté, et donc ça fait 3 ans qu'on travaille sur la loi du bétail et de la viande, l'Interbev, l'interprofession du bétail et de la viande. Et ça fait depuis que la loi Egalim est sortie qu'on essaye d'avoir une inversion de construction des prix qui partent à partir des coûts de production des producteurs. Et où on s'aperçoit qu'en fait, dans la filière, il y a des gens qui ne sont pas très transparents, notamment les abatteurs, y compris Bigard, qui a mis du temps à diffuser ses chiffres de résultats, notamment.
C'est le plus gros, c'est la plus grosse société.
C'est le plus gros opérateur, par exemple.
Le plus gros opérateur d'abattage.
Voilà, qui nous répète, nous, quand on voit ses représentants à Interbev, qui nous répète depuis 2 ans et demi, 3 ans, qu'on ne gagne pas d'argent avec la viande, mais que quand il publie ses comptes là, au mois d'août dernier, qu'il fait 100 millions de bénéfices.
Mais ils font ça pour la beauté du sport, hein, j'imagine.
C'est ça.
si c'est pas pour gagner de l'argent. Hein, Edouard ?
Il y a ce combat-là à mener, et puis les producteurs soient rémunérés, et puis ce système d'abattage-là à fond. Et puis on va dans cette mouvance de sociétale qui est claire. On vaut mieux manger moins de viande, clairement. Mais vaut mieux mettre le prix d'éleveurs en circuit court avec des viandes, des bêtes qui ont vécu
heureuses, bien élevées,
avec passion avec les éleveurs jusqu'au bout. Mm.
Allez, on va revenir tout de suite s'immerger dans ce monde de la viande, ce monde de l'élevage ici au Salon de l'Agriculture. Et on va parler quand même d'autres races. Il n'y a pas que la charolaise, il y a aussi la limousine et même la basade.
On retrouve Vincent Ferniaud pour Place du Marché, émission enregistrée jeudi depuis le Salon de l'Agriculture.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Toujours au Salon de l'Agriculture, en compagnie de mes invités, Edouard Bergeon, qui est le réalisateur du film Au nom de la Terre, qui est un peu notre grand témoin du jour. Hein. faut dire que tout le monde vient le voir ici parce que c'est devenu un visage de l'agriculture française. On le remercie d'ailleurs de mettre en lumière les problèmes et peut-être aussi les solutions. On va en parler tout au long de l'émission. Là, plus sur les éleveurs avec Émilie Janin, qui est éleveuse de vaches charolaises en Côte d'Or. Le berceau, il n'est pas loin, hein, le berceau de la race charolaise. Et surtout, pour votre initiative dont vous nous parliez juste avant la pub, qui était de mettre en fait en service des abattoirs mobiles. Alors, je le rappelle pour ceux qui ne nous ont pas entendu, un abattoir mobile, c'est simple, hein, c'est un camion qui se déplace de ferme en ferme et qui évite qu'on transporte les animaux souvent très loin. Hein. Ça peut être à 100 km, 200 km en abattoir.
Oui, alors 100 km, c'est même pas loin en fait. Hein. Pour beaucoup, c'est beaucoup plus. C'est souvent 400, 500
Ouh là
km.
Là. Ah oui.
Et puis, il y a des zones, toutes les zones montagneuses où là, les kilomètres se parlent pas en kilomètres, mais en heures de camion. Quoi.
Ah bah oui, c'est vrai que quand on descend de la montagne pour aller à l'abattoir, si ça se trouve dans les vallées, ça peut être compliqué parfois, surtout en hiver.
Exactement.
Surtout en hiver. Alors, Émilie, avant de vous libérer, parce que comme vous le disiez, vous êtes aussi à Interbev, dont le stand n'est pas très loin, ici sur le hall 1, et vous avez du boulot hein, sur le salon de l'agriculture, hein, parce que vous ne pouvez pas y passer toute la semaine, vous. Hein. Je suppose qu'il faut vous occuper de vos vaches quand même.
Voilà, il faut s'occuper un peu des vaches, des clients, et voilà, donc c'est intense, c'est important de venir parce qu'on fait des super belles rencontres, c'est le moment de faire passer des messages, c'est le moment d'avancer sur des projets qu'on porte. Mais voilà, moi j'ai un métier effectivement qui m'attend à la maison aussi.
Émilie Janin, ces abattoirs mobiles, on en est où alors ? Et ça arrive là, ça y est ?
Alors ça arrive, nous on travaille beaucoup dessus. La loi est passée, tous les décrets d'application ont été pris. Concrètement, en fait, on attend un soutien public financier aussi qui puisse garantir
Pourquoi
nos partenaires.
Ça coûte cher, un camion abattoir ?
C'est autour d'1,2 million.
D'accord.
Donc c'est pas donné, mais c'est pas non plus excessif au regard du volume qu'on peut faire d'activité comparé à un abattoir fixe. En fait, tout est relatif. Et en fait, voilà, par exemple, pour les expérimentations de sexage in ovo, des œufs pour éviter...
Sexage in ovo, alors là,
oui, c'est pour éviter l'écrasement des poussins.
Oui, d'accord.
Voilà.
Ah, donc oui, là, on est dans l'œuf.
Par exemple, cette expérimentation pour éviter l'écrasement des poussins, voilà.
Oui,
mal. Au lieu de les sexer, voilà, on pourrait tester de les sexer dans leur œuf. Donc voilà, c'est le sexage in ovo, de vérifier
D'accord.
et de faire une sélection avant.
D'accord.
Pour cette expérimentation, le ministère de l'Agriculture a trouvé une enveloppe de 5 millions d'euros. Concrètement, je sais que l'OABA, par exemple, qui soutient notre projet, a demandé aussi au ministère de trouver une petite enveloppe pour soutenir ces projets d'abattoirs mobiles.
Vous êtes seul là pour l'instant ?
Alors nous, on travaille...
Il y a plusieurs abattoirs mobiles en France.
Pour bovins, on est les seuls à être aussi avancés. Mais après, il y a plein de projets qui naissent sur le territoire, notamment sur des problématiques ovins-caprins, parce que ces petits ruminants ne sont pas jugés comme assez rentables pour les abattoirs. Et donc, du coup, souvent, ces éleveurs qui font de l'ovin-caprin, souvent en vente directe, doivent faire
on
des
parle toujours de rentabilité.
Voilà, l'agriculture.
On est bien toujours là. Hein. Voilà,
et la viande est belle, elle est bonne, il y a des éleveurs derrière, mais bon, c'est pas assez rentable, c'est donc c'est un sous-produit.
Je comprends. Émilie, un dernier mot. Parlons clair, quels sont les obstacles de la part des éleveurs, de la part de la filière, de la part de l'agroalimentaire? Quels sont vos obstacles? Qui est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui de créer ces abattoirs mobiles?
Alors clairement, c'est les industriels qui sont fortement dérangés par le fait qu'on puisse dire qu'on puisse faire autrement que le modèle qu'ils ont mis en place. Quoi. Enfin voilà, on est clair. Donc
même si vous n'allez pas les égratigner sur le plan du chiffre d'affaires,
sur le plan du chiffre d'affaires ou du volume, c'est pas la question. Mais le fait de pouvoir dire on veut faire autrement et on veut faire bien, on veut bien traiter et les animaux et les éleveurs, c'est hyper important. Eh bien, ça vient les perturber tellement qu'en fait, effectivement, on s'aperçoit qu'ils ont différentes stratégies assez nombreuses et qu'ils œuvrent clairement en sous-main un petit peu tout le temps pour qu'on n'arrive pas à avancer. Mais malheureusement pour eux, on est déterminés, on est des gens professionnels avec beaucoup de partenaires et d'alliés, et notamment la société civile. Ils ont envie que ça change et on va faire que ça change.
Et autour de vous, allez, un dernier mot, les éleveurs, vos amis ou ceux d'autres régions, vous sentez... un intérêt, une envie de la part de ces gens, même quitte à avoir une viande plus chère au résultat.
Ouais, on a beaucoup de gens, on a une communauté qui s'appelle la communauté Rosebeef qui s'est fédérée sur Internet.
Au moment du Brexit, c'est bien.
Voilà, qui veut dire Rassemblement officiel des soutiens au bœuf éthique et ses fans, et qui du coup rejoint, on a dedans plein d'éleveurs qui viennent témoigner, qui font des petites vidéos sur leur ferme, des bouchers, des restaurateurs, et c'est génial. J'ai
la pédagogie.
Et oui, et gagner l'opinion publique hein,
ouais.
aussi. On le sait.
Oui. Moi, je encourage et soutiens tous ces éleveurs qui créent des chaînes YouTube et qui racontent leur métier. Ils leur font pas de mal à leurs animaux, ils les aiment. Mmh. Voilà.
Bah oui. Ah, des youtubeurs, on en a besoin, même sur nos terres, nos terroirs.
C'est
merci, Émilie Jana. Écoutez, je croise les doigts pour vous.
Aussi.
Parce qu'on sait que tout ça va dans le bon sens. Manger peut-être un peu moins de viande, mais meilleur. C'est tout ce qu'on souhaite, nous, consommateurs.
Oui, hein, nous aussi, éleveurs.
Et oui, et puis vous, les élever mieux, les aimer jusqu'au bout, vos
merci
vaches.
Merci beaucoup.
Merci, je vous libère.
Merci,
allez,
au revoir.
Et je vous libère. Et à votre place, on va recevoir un autre éleveur. Il s'agit de Jean-Pierre Bonnet. Alors Jean-Pierre, il est éleveur en race limousine, hein, la limousine, alors pour moi c'est quand même une sorte d'emblème de la belle race à viande française, hein, on peut le dire.
Ah oui, tout à fait, bonjour. Hein,
ça reste d'ailleurs du point de vue des Français, peut-être avec la charolaise.
Et la partenaise.
Ah bah ouais, ça c'est parce qu'Edouard Bergeon il défend son terroir, le côté haut Poitou ressort.
Mais oui, mais c'est ça.
Dites-moi, la limousine, d'abord, on la trouve en France, parce que ça reste une nouvelle... Mais surtout, elle part améliorer les cheptels dans le monde entier.
Oui, tout à fait. La limousine a été exportée depuis les années 70 dans plus de 80 pays dans le monde. Alors, on en trouve à toutes les latitudes. Il y en a aussi bien en Australie, Nouvelle-Zélande, on va en trouver en Russie, Mongolie, Afrique du Sud, enfin, dans toutes les latitudes et par tous les climats.
Alors, tout à l'heure, la charolaise, bah, vous la connaissez d'autant que idéal... La l'égérie du salon, c'était une charolaise cette année. La limousine, elle lui ressemble un peu, mais au lieu d'être blonde, elle est rousse foncée au burn. Hein, on peut dire, hein, brune roux, brun roux.
Alors la vraie couleur, c'est froment.
Froment, oui. Bon, d'accord. Voilà. Mais cela dit, il y a des nuances. Hein. On trouve des limousines plus ou moins claires. Hein. On
tout
est d'accord
fait, mais on a des limousines. Bon, on parlait de la partenaise. La limousine a un peu la même couleur que la partenaise, à part qu'elle a la partenaise un petit peu plus de noir autour des muqueuses. Mais sinon,
et puis la limousine a le poil un peu frisé, hein, elle a tendance à boucler.
Oui, tout à fait.
Quand le poil pousse.
Bah, ça approche de la montagne et de Salaire, donc des voilà, climats un peu froids, donc il faut
Il faut des vaches rustiques, donc qu'elles soient un peu couvertes. Bon, pour parler de votre race à viande, de cette limousine, ça donne une viande qui pour moi c'est très important, qui a un persillé. C'est-à-dire dont on va dire les fibres sont en fait interpénétrées par du gras, et c'est ce qui va donner un arôme particulier à cette viande.
Oui, tout à fait. La limousine, depuis très longtemps, avait participé à travers le monde. Il n'y a pas beaucoup de carcasses entre différentes races pour classer les races de viande, enfin les races de vaches. Et la limousine avait participé dans beaucoup de concours dans le monde entier et avait pratiquement à chaque fois gagné. Alors il y a d'autres races, bien sûr, qui ont des spécificités en fonction des goûts de chacun. Mais c'est vrai que la limousine est précitée et assez réputée pour justement avoir la capacité à assimiler ce gras interfibre.
Alors, en dehors du fait que vous êtes éleveur de bovins, donc de vaches limousines, à côté de Limoges, hein, là aussi berceau de cette race, vous êtes président de ce qu'on appelle Limousin Production, qui est donc une sorte d'interprofession. Comment est-ce qu'on peut définir, ou un organe de promotion de la race?
Alors Limousin Promotion, c'est l'organisme de gestion qui s'occupe des cahiers des charges, c'est-à-dire de faire la promotion des cahiers des charges, mais également de contrôler au bon respect de ces cahiers des charges. Il est évident aujourd'hui, bon, on entend beaucoup parler, l'élevage est souvent décrié, mais on a des cahiers des charges qui garantissent aussi bien aux abatteurs et à toute la chaîne jusqu'aux consommateurs que les conditions d'élevage ont été respectées.
Donc elles sont respectables.
Et que le consommateur aura un produit de qualité à chaque fois qu'il va acheter, par exemple, un produit qui va être label rouge, eh bien, il aura des garanties que toutes les choses tout au long de la filière aura été bien respectées.
Alors, vous êtes sur un terroir qui descend jusqu'à la Corrèze, vraiment de cette race limousine, avec le veau notamment élevé sous la mer, qui est très célèbre, hein, qui fait une de nos plus belles viandes de veau nationale et même internationale.
Qui est le caviar de la viande.
Voilà, vous défendez donc toute la production. Pourtant, je suppose qu'entre les meilleurs éleveurs et ceux qui sont moins nommables, il y a quand même des différences. Je sais que vous surveillez, mais vous les exhortez quand même à travailler mieux, à être plus respectueux d'un élevage sincère.
Mais de toute façon, pour être dans ce cahier des charges et pour pouvoir produire des animaux label rouge, il y a des contrôles qui sont faits tous les ans, donc par l'organisme de production, mais il y a également des contrôles qui sont faits par un organisme certificateur. Donc l'éleveur est contrôlé, l'organisme de production qui contrôle est contrôlé également par un organisme certificateur, et tous les ans, l'organisme certificateur contrôle le travail qui a été fait par l'OP chez des éleveurs tirés au hasard. Donc c'est difficile de ne pas avoir d'avoir des gens qui passent à travers les mailles du filet. Bien sûr, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais c'est difficile. Et puis ça se voit après au niveau, au moment de l'abattage, un animal qui aura été maltraité, mal nourri, ne pourra pas rentrer dans ces filières qualité.
Édouard Bergeron, vous qui êtes devenu un peu un porte-voix pour le monde agricole, pour lutter contre le désespoir. On voit des gens qui aiment leur métier, hein, qui aiment leurs bêtes, qui sont passionnés. Et Dieu sait qu'il faut l'être quand on se lève aux aurores et qu'on se couche à pas d'heure. Très honnêtement, quand on entend les attaques, que ce soit des véganes, des antispécistes, des ligues de protection des animaux, contre, d'un côté de la chaîne, les bouchers, hein, on l'a vu, des attaques violentes, de l'autre côté, les éleveurs. Vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas les bons interlocuteurs, que ce n'est pas les bons interlocuteurs qui sont visés par toutes
ces... Non, mais c'est une injustice totale. Il faut oublier que les agriculteurs sont ceux qui remplissent au quotidien notre assiette. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société, elle réagit dans l'émotionnel. On le voit bien, tout est commenté tout de suite, tout le monde réagit. Sauf que les paysans, il n'y a pas plus rationnel qu'eux. Hein, on laboure, on sème,
les pieds dans la terre, même si on allait dans les
récolte.
Étoiles.
Oui. Voilà, donc là, il y a une contradiction et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, parce que quand on voit certaines associations antispécistes qui mettent le feu à des bâtiments d'élevage parce que ça ne leur plaît pas qu'on élève des poulets. Bien sûr que les poulets en batterie, c'est pas top. Mais faut juste rappeler aussi qu'en France, on fait partie des agricultures les plus durables et vertueuses du monde quand même. Hein. Je les invite à voyager et à voir comment on produit dans certaines contrées, en Amérique du Sud ou dans les pays de l'Est. Nous, en France, on a tellement de normes, des fois qui nous asphyxient, mais qui permettent aussi de...
Du coup, avec une certaine globalisation du marché, des échanges privilégiés, on va y revenir.
C'est en ça que le consommateur a le pouvoir de choisir ce qu'il mange avec sa carte bleue en devenant un consommateur.
Parce que c'est marqué sur l'étiquette, hein, je vous le répète sans cesse. Allez, on se quitte une minute, on revient tout de suite au Salon d'Agriculture.
Place du marché avec Vincent Ferniaud, émission enregistrée jeudi depuis le Salon de l'Agriculture.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes amis, toujours dans une ambiance extrêmement festive, familiale, ici au Salon d'Agriculture, puisqu'on est dans le hall 1 sur le centre d'Occitanie. Le hall 1, c'est là que sont les bébêtes, hein, les animaux, ils sont tous là.
Cette petite odeur de campagne.
Ah bah oui, parce qu'on est face aux moutons.
Ah ouais, mais...
Mais ils sont magnifiques, ces moutons, d'ailleurs. Hein. Alors, celui que vous avez entendu à l'instant, c'est Édouard Bergeron, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous pendant toute cette émission. Édouard, le réalisateur d'Au nom de la terre, mais il est aussi journaliste, mais il est aussi agriculteur, et il est aussi restaurateur. On se demande où il trouve le temps de tout faire. À l'instant, vous entendiez également Jean-Pierre Bonnet, éleveur de la race Limousine, hein, et président de Limousin Promotion. Et puis, on a été rejoint par un autre éleveur, un amoureux des vaches, forcément, puisque c'est William Auriol, qui, lui, travaille plus bas, en Nouvelle-Aquitaine, sur la Bazadaise. Bonjour, William.
Bonjour, Vincent.
À la Bazadaise, on va y venir dans une seconde. Juste avant la pub, on disait un mot avec Édouard sur... la situation en définitive de ces éleveurs vis-à-vis de l'opinion publique. Alors juste avant la pub, on discutait avec Édouard Bergeron du fait que les agriculteurs sont souvent victimes. Alors victimes de l'opinion publique, victimes des plus extrémistes d'entre nous, quand il s'agit d'élevage en particulier, parce que c'est vrai que la viande c'est un vrai problème de société. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi, et c'est ce qu'on voit dans votre film, victimes de la globalisation, victimes du marché? Parce que ce sont d'abord des gens qui cultivent la terre, pas forcément des traders.
Oui, mais il y a un système qui a fait qu'au tournant des années 90, il a fallu que les structures grossissent. Il y a de moins en moins d'agriculteurs et il y a un système d'intégration, c'est-à-dire des groupes coopératifs qui proposent à des éleveurs de signer des contrats pour quelques années en investissant des sommes astronomiques dans des bâtiments, des installations et puis en gérant toute la filière viande, aliments.
Mais ça veut dire qu'ils deviennent des ouvriers de la terre?
travailleurs.
Oui, en quelque sorte. Ouais. Ils sont plus autonomes et maîtres de leur outil de travail. Et ajouter à cela que plus on grossit, plus il y a de terre et plus d'animaux, ben, plus il y a d'aide compensatoire de Bruxelles. C'est lié à la terre, tout ça. Alors peut-être que ça va changer avec la renégociation de la PAC aujourd'hui. L'agriculteur, il a quand même perdu une sacrée part de sa fierté, de son identité depuis quelques années. Alors en plus, ajouter à cela le jugement aujourd'hui de certains et de l'opinion publique, il y a une sorte d'ubérisation aussi de la société à tous les niveaux. Hein. Les trottinettes, on les a pas vues arriver, elles sont arrivées à Paris, elles ont envahi les rues, et c'est l'anarchie, c'est la jungle. Et ben dans l'agriculture, là, à un moment donné, on dire non mais il faut changer les modes, parce que les agriculteurs sont des pollueurs, les agriculteurs traitent mal leurs animaux, les agriculteurs...
Oui, mais Edouard Bergeon, dans votre film, évidemment, vous mettez en avant le désespoir à travers votre histoire familiale, à travers votre père qui a mis fin à ses jours. Et aujourd'hui, on sent cette désespérance. Il y a un problème d'atteinte à l'estime de soi. Quand on attaque les agriculteurs en permanence, comme le font justement en termes d'élevage et de viande, beaucoup de gens un peu extrêmes, on atteint à leur estime d'eux-mêmes. Et comment après, comment continuer à faire ce métier, à aimer ce qu'on fait, à le faire bien ?
Non mais clairement, et puis je vous passe certains organismes bancaires qui, quand vous êtes en redressement judiciaire, quand vous avez déposé le bilan, mais que vous pouvez continuer à travailler en payant, en étalant vos dettes, qui écrivent sur les courriers bancaires que l'agriculteur reçoit, redressement judiciaire, au niveau stigmatisation et culpabilisation, quand ça va déjà pas bien, il y a tout un système, un écosystème autour de l'agriculteur qui gagne de l'argent très bien, il n'y a pas mieux qu'un agriculteur endetté pour faire vivre un écosystème. Voilà, il y a un moment donné... Justement, on les pousse à l'abattoir, certains agriculteurs. Mais voilà, c'est un film dur, c'est un film noir qui met une claque, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas optimiste, en fait. Je fais voir beaucoup ce film dans les lycées agricoles, aux jeunes qui vont s'installer. Et ils me remercient de leur avoir montré ce film qui est ancré dans les années 90, qui montre une réalité d'il y a 20 ans, qui a plus ou moins évolué, mais le contexte n'a pas vraiment changé. Mais voilà, ils se disent, ah voilà le système dans lequel il ne faut pas que j'aille.
Oui.
Il va falloir que je m'installe dans un autre modèle.
Il faut leur montrer aussi le film américain Meat Incorporated, qui nous fait voir le côté noir, le côté obscur de la force du monde de la viande, alors que nous, on a de beaux éleveurs ce matin, et on sent leur fierté d'ailleurs. C'est ça l'avantage.
Non, l'enjeu, là, je vais les laisser parler, c'est de préserver cette agriculture familiale. Dans 10 ans, la moitié des éleveurs vont partir à la retraite en France. Est-ce qu'on sacrifie cette agriculture familiale de ferme moyenne ? Parce qu'aujourd'hui, on se dirige vers une concentration des structures avec la ferme des 1000 vaches et plus. Hein, nos amis hollandais et allemands de l'Est font des structures encore plus grosses. Ou la ferme très petite avec des circuits courts, très bobos, qui fait une agriculture bio, mais qui nourrira pas une grosse industrie. Voilà, comment on préserve l'agriculture familiale avec les éleveurs qui sont
tout alors là, nos éleveurs ce matin, Jean-Pierre Bonnet, qu'on entendait à l'instant, il a le blason prestige, hein, c'est-à-dire il porte haut et fier sa limousine. Et puis William Auriol qui est en face de moi, et il est habillé en gris comme sa basadaise.
Exactement, Vincent, c'est exactement ça. Et pour rebondir sur les propos d'Edouard, effectivement, l'agriculture familiale, nous, on ne peut pas faire autrement que ça, puisque au travers de nos deux élevages, la grise de Bazas et la maison Lacoste...
Où est-ce que c'est, vous ?
À Bazas.
À Bazas,
on est en Gironde.
C'est le long de la Gironde. Hein.
Voilà, on est à 70 km à l'est de Bordeaux, en dessous de Langon. Et la Bazadaise, la grise de Bazas, à proprement parler, c'est un tout petit cheptel. C'est quelques 4000 têtes, alors que le cheptel bovin en France, je crois que c'est 7 à 8 millions de bêtes. Donc on représente quasiment rien du tout. Ce qui fait qu'en production, on peut fournir le marché et l'ensemble de la race. Hein. À peu près 1000 bêtes, ça fait une bête par mois et par département.
Ah oui, dis donc,
on n'est pas du tout dans l'extensif.
Ça doit être bonne. Hein.
Voilà. Nous, sur nos deux élevages, on doit avoir 60 têtes, pas plus que ça.
C'est combien la limousine en France ? Parce que là, on va voir la différence quand même de niveau.
La limousine, c'est 1 200 000 vaches et on est la deuxième race à viande en termes d'effectifs.
Voilà. Alors, on ne joue pas dans la même cour, mais pas la même division, mais cela dit, ça n'empêche pas de bien jouer du côté de la limousine si on fait bien son travail.
Tout à fait. À partir du moment où on fait son travail avec passion, on ne peut sortir que des beaux produits. Et pour rebondir un peu sur la thématique de l'émission, notamment c'est lié à l'abattage, il est vrai que l'abattage est une des phases du process dans l'élevage qui est extrêmement importante. À la fois pour un problème de conscience de l'éleveur, mais aussi pour les qualités organoleptiques de la viande.
Bah,
parce qu'une bête stressée ça va effectivement altérer les qualités, la qualité de la viande, sa qualité gustative, la mâche, etc. Et sur notre élevage bio, par exemple, on a la chance d'avoir l'abattoir qui est à 5 km à peine de notre élevage. Donc nous, on prend les bêtes dans le pré, les jours d'abattage, à 5 heures du matin. On les fait monter dans la bétaillère et on y va en tracteur. Le tracteur, c'est un bruit qui leur est familier, elles l'entendent tous les jours depuis des années. Les bétaillères, elles y montent quand on les change de pré.
Bien sûr, bien sûr.
Le trajet dure 20 minutes à peine en tracteur pour faire ces 5 km. Donc la phase de stress, elle est quasi néante, parce que quand elles descendent de la bétaillère, elles vont dans un couloir, elles sont endormies et puis, ouais, et puis tuées. Donc ça nous permet, nous, de à la fois encore, pour notre conscience, d'avoir le sentiment de faire du mieux qu'on peut notre boulot.
En tout cas, le moins
mal. Et d'être le plus respectueux possible des bêtes.
Mais
pour
William,
la qualité de la viande,
c'est très important. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ce que nous disait Émilie Janin ? Est-ce que vous seriez prêt à avoir, par exemple, ces abattoirs itinérants ?
Ah ben, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on a convenu avec Émilie de se revoir et d'essayer ce type d'abattage. Il faut savoir que le plus extrême, la plus extrême des démarches en la matière, elle se pratique dans les pays scandinaves. On met des snipers, des vrais snipers.
Eh oui, puisque elle a été chercher ça en Suède, hein, cette idée d'abattoir.
Des vrais tireurs d'élite, voilà, qui vont dans les prés et qui abattent les vaches et les bœufs dans leur cadre de vie naturel.
Mmh. Oui, alors.
Donc là, le stress, il est réduit à zéro.
Ça veut dire qu'on peut comprendre des gens qui ne supportent pas l'idée d'abattre des mammifères, mais pour tous les autres, ceux qui sont vraiment juste soucieux des conditions dans lesquelles c'est pratiqué, là, c'est souverain.
Ah ben, tout à fait. L'abattage à la ferme, pour ça, on ne peut guère trouver mieux.
Alors, vu le cheptel et le nombre de bêtes abattues par an en race limousine, Jean-Pierre, j'imagine que c'est pas pour demain qu'on pourra avoir de l'abattage à la ferme pour votre cheptel à vous.
Alors, c'est pas pour demain pour une certaine catégorie d'animaux, mais c'est vrai qu'il y a des éleveurs qui font de la vente directe et qui peuvent être amenés à souhaiter ce genre d'abattage. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'en termes de volume, même si le mot est pas très agréable à dire, en termes de volume, ce serait assez difficile pour abattre tous les animaux limousins. Mais c'est sûrement possible sur certaines catégories d'animaux et certains modes de commercialisation. Je voulais rajouter et rebondir sur ce qui s'était dit un petit peu partout, c'est qu'un éleveur, il aime ses animaux, il aime sa terre, il a besoin d'aimer sa terre et ses animaux, parce que si on veut, on est des producteurs, si on veut gagner sa vie, il faut quand même que la terre nous le rende pour pouvoir vivre dignement.
Merci Jean-Pierre Bonnet. Allez, Édouard Bergeon, pour conclure cette émission et le salon, hein, puisque vous y avez passé pratiquement jour et nuit pendant une semaine. Vous avez vu le président d'ailleurs ?
Oui, j'ai vu le président Macron, parce que en compagnie de Solidarité Paysan, qui est une association qu'on défend avec Guillaume Canet. Guillaume était là hier avec moi, on était dans les travées du salon pour justement soutenir Solidarité Paysan qui fait de la veille et de l'accompagnement aux agriculteurs en difficulté, ceux qui nous écoutent et qui ne se sentent pas vraiment bien et qui qu'on en marre. Et voilà, il y a cette association qui existe.
C'est un peu SOS Détresse Amitié Paysanne.
C'est ça, c'est l'associatif qui pallie à l'institutionnel. Hein. C'est vraiment l'acteur majeur qui aide, qui fait de l'accompagnement psychologique, mais après technique, et puis qui aide à sortir par le haut dans une situation souvent inextricable au niveau financier. C'est pour ça qu'avec Guillaume, on porte cette association. Et j'ai demandé au président Macron qu'elle soit reconnue d'utilité publique. Pourquoi ? Pour qu'il puisse y avoir des donateurs qui fassent de la défisque. Hein. C'est comme ça qu'on a sauvé Notre-Dame. Est-ce qu'il ne serait pas d'intérêt général, d'utilité publique, de sauver nos agriculteurs qui nous nourrissent, et je crois que c'est d'intérêt général que notre assiette soit bel et bien remplie tous les jours avec de beaux produits.
Et de beaux produits. Et la qualité, vous l'avez senti, elle progresse sur le salon, vous avez senti un sursaut de qualité ?
On a une agriculture des plus belles et des produits les plus magiques du monde. Les produits d'exception, on les exporte.
Voilà.
C'est quand même compliqué d'exporter des produits d'exception.
Ça fait du bien la balance commerciale.
Et d'importer des poulets de merde du Brésil, donc, ou de la viande du Canada. On a un patrimoine culturel, agricole, gastronomique, qui est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est parce qu'on a des paysans et des paysannes derrière. Donc soutenons-les, aimons-les. Ouais. Loving.
Et mon lait, elle a été hein, aussi. Alors, mon cher Edouard, merci Edouard Bergeon d'être venu témoigner ici, Place du Marché. Merci messieurs. Hein, moi, ça m'a donné envie d'une belle entrecôte, quoi. Hein. On peut aller au Hall 3 pour goûter ça.
On n'est pas loin de midi, dans une heure.
On ira un petit peu tout à l'heure. Le temps de faire un tour au milieu de ce salon. Merci Edouard Bergeon. Allez, merci à tous d'être venus faire votre marché de viande, de belle viande au sein de l'agriculture avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 10h, comme d'habitude. Enfin, pas tout à fait comme d'habitude, parce que, comme souvent, je serai entouré de chefs. Mais la configuration sera un peu spéciale puisqu'on vous parlera depuis Agadir au Maroc où se prépare un grand événement culinaire. Je vous en dis pas plus, vous en saurez plus dimanche prochain. D'ici là, bonne journée au salon et bonne semaine sur Sud Radio.
Sud Radio, Place du Marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.